Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous, non seulement pour un nouvel épisode, mais pour le grand retour de Jess au micro.
Personne du montage, insérez des petits bruits d'enfants qui font « Yay! » Merci beaucoup de m'avoir attendu et surtout merci à toi Noémie d'avoir pris le micro seul pendant quelques semaines. Pour vrai, t'as fait ça comme une chef. J'ai vraiment adoré t'écouter pendant que je faisais la vaisselle, pendant que je faisais la lavage toute seule. Puis elle, c'est une fille en plus. Mais ouais, ça m'a vraiment fait du bien de t'écouter. Puis ça m'a comme mis dans une position d'auditrice pour de vrai. Parce que j'avais pas regardé tes scripts, je me laissais comme un peu la surprise, je me laissais découvrir ce que t'avais fait avec le montage. J'allais pas regarder d'avance, fait que j'attendais que l'épisode sorte, je l'écoutais, je le consommais comme tout le monde. Ça m'a comme donné un nouvel angle de consommation de Crime et Cocktail, parce qu'habituellement, ben, on le consomme parce qu'on fait le montage, puis on fait tout le travail derrière. Mais ça m'a fait vraiment du bien de juste être dans le siège d'auditrice, puis t'as fait une très bonne job pour vrai. Si c'était pas du fait que t'es ma bonne chum, mais j'ai un parti pris, c'est sûr que tu m'aurais eu comme abonné. Fait que bravo!
Merci, oh my god. Tout le monde a été tellement gentil, en plus dans les auditeurs. Vous avez envoyé tellement plein de messages. Ma tête rentrera plus dans les cordes de porte. Mais comme j'avais dit dans l'épisode du Poltergeist, en fait, l'épisode de la malédiction du film Poltergeist, ça a été vraiment le fun de... Tu sais, c'était une nouvelle aventure, mais je suis vraiment contente. Tu sais, Crime et Cocktail, c'est à deux, c'est à moi et Jess, puis je suis vraiment contente de retrouver notre formule. À deux, on dirait que tout était débalancé dans l'univers pendant ce moment-là. Donc là, je suis contente qu'on soit revenus à notre chez nous. Je me sens chez nous. J'aime ça.
vraiment contente d'être de retour à la maison aussi. J'ai dit contour parce que j'étais trop contente de dire contente et retour en même temps. Fait que ça a fait ça. Fait que je suis vraiment contour d'être de retour à la maison. Parlant d'être de retour à la maison, notre maison à nous, c'est Instagram. Viens-donc nous rejoindre parce qu'on annonce bien des affaires. Parlant d'une autre petite maison, si tu veux aller faire un tour sur nos maisons qui abritent notre podcast, genre Spotify, Apple, peu importe où ce que tu l'écoutes, puis nous laisser une belle petite note de 5 étoiles, s'il vous plaît!
S'il vous plaît! Bon, Jess et moi, on se replace dans notre rôle de faire le podcast à deux. C'est surtout moi qui ai un petit peu de misère aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va passer au cocktail du jour. On est rendu là, je me touche plus qu'à de parler. On est rendu au cocktail du jour, Jess, n'est-ce pas?
OK, yes! Qu'est-ce qu'on va aujourd'hui, nous?
Aujourd'hui, l'inspiration du cocktail vient de l'année passée. J'ai été à un de mes restos préférés, que j'ai un blanc du nom. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais c'est un de mes restos préférés, puis j'ai un blanc. J'ai juste un nom de resto vraiment pas rapport dans ma tête. Je vais essayer d'y repenser pour vous en parler sur Instagram, mais j'ai oublié le nom du resto, mais j'étais avec deux de mes amies, puis il y en a une d'elles qui avait commandé un drink. Puis dans le drink, il y avait une empreinte de lèvres en sucre dessus. J'ai trouvé ça tellement le fun. Je sais pas, ça donnait du pouvoir, c'était très féminin puis empowering. J'ai vraiment aimé ce cocktail-là, ça m'a marqué. J'en ai parlé avec Jess. Puis vu le titre de l'épisode d'aujourd'hui, on a voulu s'inspirer du fameux cocktail puis rester dans la thématique. Donc, aujourd'hui, on boit un baiser de feu. Première étape, avec un pilon, vous allez écraser des tranches de jalapeno. On sait à quel point Jess aime ça.
OK, yes, madame!
Ensuite, vous allez transférer le tout dans un shaker. Ajoutez environ 1 once de jus de lime, 1 à 2 onces de mezcal. Si vous aimez ce style, vous pouvez mettre un beau petit 2 onces, hein? On aime ça à créer mes cocktails. Puis, mettez de la glace. Ensuite, Jess, on fait quoi?
Shake, shake, shake!
Et versez le contenu à travers un filtre dans un verre et complétez avec du jus pétillant à l'orange sanguine. Une autre chose que Jess aime, je m'étais trop ennuyée de toi, Jess, fait que j'ai fait un cocktail en me disant qu'est-ce que Jess aime le plus?
En plus, avec la mezcal, il y a comme un petit goût fumé, mais même la tequila, je te dis, ouais, c'est comme tu voulais vraiment venir chercher mon cœur.
Je voulais te faire plaisir. Pour la touche finale, vous allez avoir besoin d'un bonbon en forme de lèvre, parce que bon, regarde, on s'entend, comme on dit souvent, crème et cocktail, on fait avec les moyens du bord. Est-ce qu'on a vraiment le temps puis l'énergie de faire une petite forme de lèvre en sucre, comme si on était des mixologues professionnels? Non. Fait que vous allez juste prendre un petit bonbon en forme de lèvre, vous allez rentrer un cure-dent dans le bonbon, puis vous allez juste le poser en équilibre sur le verre. Ça va être juste ça, votre job. That's it, that's all.
Basketball! Mais si vous êtes capable d'aller vous trouver un petit moule et de l'espèce de poudre comestible, je suis certaine que vous êtes capable de vous arranger quelque chose puis de vous faire une belle petite trace de lèvre sur le top de votre cocktail dans tous les cas, quand même. Tu sais, on se débrouille avec les moyens du bord.
En plus, la Saint-Valentin s'en vient, fait que j'imagine qu'il y a des petites moules. C'est vraiment bizarre à dire, des petites moules en forme de lèvre. J'ai vraiment pas pensé avant de parler. Bref. Anyways, ma note pour le cocktail.
Oh non!
En plus, j'ai mangé des moules ce midi.
OK.
Oh mon Dieu. On va passer à d'autres choses. On boit un baiser de feu, mais maintenant, j'ai quand même envie de l'appeler la... le petit moule, les petites moules en forme de lèvres. Que Jess, sur 10, comment que tu notes le cocktail, les petites moules en forme de lèvres?
J'adore le nouveau baptême. Donc, les petites moules en forme de lèvres m'inspirent un 10 sur 10 pour vrai. Puis pas juste parce que c'est des moules en forme de lèvres, mais parce que tout ce que tu as choisi comme ingrédient, comment qu'on dit en anglais? You hit the spot.
Ouais, moi aussi 10 sur 10. Ça fait vraiment longtemps qu'on a eu ça à CIC. Un 10 sur 10. On dirait qu'on a été dans le 7.5 pendant un petit bout. Mais là, orange sanguine, jalapeno, un peu de pétillant, tequila et nickel, pas de niaiser.
En plus, c'est un consensus, tu sais. Puis t'as été capable de plugger une des références québécoises les plus emblématiques des, genre, peut-être 15, 20 dernières années. Fait que bravo, Noémie, et bravo pour ce cocktail. Et je dis cheers.
Chin, chin.
Comme vous le savez, à Crème et Cocktail, on a pris une petite pause autant en été qu'en novembre pour peaufiner les derniers préparatifs de notre grand retour! Insérer la personne du montage, encore une fois, les mêmes personnes joyeuses. Joviales et joyeuses. Yay! Donc, roulement de tambour, encore une fois, la personne au montage. Hey, je te donne la job, hein?
J'espère que ça se trouve pour moi.
On est de retour le
4 décembre!
Avez-vous compris? C'était le 4
décembre. On est-tu trop quétaine? Je sais pas. On est juste trop contente de se retrouver.
Écoutez, vous allez devoir dealer avec toute cette joie. En plus, c'est le temps des fêtes qui commence. C'est comme avaler votre joie parce que vous allez en avoir beaucoup dans ces prochains temps. Parce que ici, à Crème et Cocktail, on est très fan de la saison estivale. 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 Aïe, aïe!
Hivernale!
De retour après que nous retrouvions nos sens. Ce sera pas très long. À Crème et Cocktail, on est très fan de la saison hivernale. Ben, on est fan du temps des fêtes, pas de la saison hivernale. Voilà, on sait juste... Tu sais, je sais pas si vous suivez CIC depuis nos tout débuts, on disait souvent qu'on avait une neurone en commune, moi puis Jess, puis qu'elle était souvent partie avec Sunwing, puis avec Sunwing, c'est toujours bien compliqué pour retrouver nos affaires puis avoir de quoi qu'il y a de l'allure. Notre neurone est partie, ça fait vraiment longtemps avec Sunwing. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend. D'après moi, elle est partie bien loin aussi.
Comme dirait Justin Trudeau, notre neurone est un ostrogothe. OK, bon. Ouais, avec tout ça, on a juste dit qu'on revenait le 4 décembre. On n'a même pas dit tout le reste de notre grande annonce. Et justement, parlant du reste de notre grande annonce, ben, les détails manquants de tout ce qui s'en vient de nouveau vont être dévoilés ce vendredi à 9h sur notre page Instagram. Si vous êtes curieux, que vous voulez tout savoir, ben, vous savez où aller. Notre page Instagram, vous pouvez la retrouver @ crime et cocktail podcast, crime E-T, cocktail, crime avec un S, cocktail avec un S, podcast. Et voilà, c'est plus simple à trouver que c'est simple à dire au micro, OK? Justement, parlant de quelque chose de facile à dire au micro, ben on a quelque chose à vous annoncer dès maintenant. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle tradition à Crème et Cocktail parce qu'à chaque épisode, on va mettre en lumière un mouvement, une organisation ou une fondation qui va souvent être en lien avec le cas qu'on va aborder. Et pour nous, c'est une façon d'ajouter du sens à ce qu'on fait, de soutenir des causes qui sont chères à notre cœur, qui sont importantes pour nous. Et on estime aussi que c'est une façon de faire une différence, un petit épisode à la fois. En parler à la fin de chaque épisode, c'est aussi un moyen de sensibiliser, d'encourager l'action et de mettre en avant des initiatives qui méritent d'être reconnues. Évidemment, on vous oblige à rien. Tout simplement, si vous êtes en mesure de propager le bouche à oreille, pour nous, on aura déjà fait notre travail. Parce que nous, on croit que l'information et l'action, ça va de pair et que tout le monde peut contribuer à changer les choses, même par de petites étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre le bal en vous parlant d'un mouvement qui nous tient énormément à cœur chez Crème et Cocktail et qui, honnêtement, est vraiment pertinent considérant les événements des dernières semaines. On vous parle du mouvement « Brisons le silence, la honte change de camp ».
Ce mouvement-là, c'est un relais au projet de sensibilisation de Dee Joyce contre les violences conjugales. C'est un projet qui vise à briser les tabous, à donner une voix aux victimes et à mettre fin à la honte qui est souvent associée à ces violences-là. C'est un appel à l'action un message de soutien et de solidarité pour celles et ceux qui vivent dans l'ombre de la violence. On est fiers, à Crime et Cocktail, de pouvoir en parler et de contribuer à faire entendre ce message puissant. Dee Joy, c'est un artiste de R&B francophone qui est reconnu pour son talent et sa contribution sur la scène musicale. C'est un multi-award winner et il a récemment été nommé à la Disque en 2024. Ce qui témoigne de son succès et de son influence dans l'industrie musicale. Mais en plus de sa carrière musicale, il se distingue surtout par son engagement social. On vous invite donc fortement à aller suivre la page Instagram du mouvement Brisons le silence, où vous trouverez des informations sur plusieurs projets inspirants, comme le projet musical Garçon. Ce projet, qui est en collaboration avec La Ruche et soutenu par Desjardins, met en lumière l'expérience d'un enfant témoin de violences conjugales en hommage à sa mère, une survivante. C'est un projet puissant qui vise à sensibiliser, à offrir un espace de parole et à rendre hommage à toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve-là. Aussi, le 25 novembre prochain, une soirée de discussion se tiendra en collaboration avec la Ville de Montréal sous un format de place assise. Ce soir-là, vous pourrez assister à un panel de discussion sur la cause des violences conjugales avec un moment musical de Dee Joyce, porteur de la chanson « Au moment contre les violences conjugales ». Il y a plusieurs invités et spécialistes qui œuvrent pour cette cause qui vont être présents sur scène pour partager leurs connaissances et leurs expériences. C'est une belle occasion d'en apprendre davantage et de soutenir un mouvement qui fait une réelle différence. En résumé, le mouvement Brisons le silence, la honte change de camp et ses initiatives comme la soirée de discussion sont des pas importants vers la sensibilisation et le soutien aux victimes de violences conjugales. Chez CIC, on est fiers de pouvoir contribuer à faire entendre ces voix et de soutenir des projets aussi puissants et significatifs. On veut dire un grand merci à Brisons le silence et à Dee Joyce pour avoir accepté de collaborer avec nous. Votre engagement, votre travail et vos projets inspirants, honnêtement, font réellement une différence dans la lutte contre les violences conjugales. C'est un honneur pour nous de pouvoir contribuer à mettre en lumière vos actions et de soutenir ce mouvement important-là. Merci de nous permettre de participer à cette belle cause aux côtés de personnes qui sont aussi dévouées. On veut rappeler une dernière fois, n'oubliez pas d'aller suivre Brisons le silence pour en savoir plus et ensemble, continuons de briser les silences et à changer les mentalités.
Et parlant de briser le silence, comme on le rappelle, il y a la soirée de discussion du 25 novembre et Noémie et moi, on va avoir le grand plaisir d'être assises dans la salle et de boire chacune des paroles qui vont être prononcées sur la scène. On est vraiment excités d'écouter le panel et d'entendre de tous les propos qui vont être divulgués ce soir-là. Et on vous encourage fortement à aller vous procurer les billets. Et le lien, évidemment, est disponible dans la description de l'épisode. Mesdames et messieurs, c'est la saison du scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau qui est célébré du 23 octobre au 22 novembre. Et les scorpions, ben, c'est des personnes vraiment mystérieuses, intenses et très, très loyales. C'est aussi des personnes vraiment déterminées, très passionnée, assez sensible et derrière qui se cache une carapace de gros durs à cuire alors qu'en fait, ils sont assez faciles à faire fondre. À contrario du réel criminel au cœur de glace qu'on a présenté dans le dernier épisode spécial Zodiac sous le signe du scorpion, et c'était nul autre que Juan Young qui a même été comparé à Jeffrey Dahmer lui-même. On vous invite à aller écouter cet épisode si jamais ce n'est pas encore fait. Eh bien, disons simplement que pour aujourd'hui, bien que le meurtrier du jour ne soit pas suspecté d'avoir consommé ses victimes, il reste qu'il y a plusieurs personnes qui estiment qu'il s'agit d'un réel homme de glace et d'un scorpion dont on veut éviter la morsure. William George Ahrens voit le jour le 15 novembre 1928 à Evanston, dans l'État d'Illinois, aux États-Unis. Son père, George Ahrens, c'est le fils d'un couple qui, eux, ont immigré du Luxembourg et, honnêtement, ils s'adaptent assez lentement au mode de vie américain. Ben oui, pour certains des fois, le bon vieux American Dream qui a plusieurs caresses dont on a fait mention dans plusieurs épisodes, ben ça peut assez rapidement se tourner en cauchemar éveillé. Heureusement pour George, ben lui, il s'adapte mieux que ses parents et quand il va rencontrer Margaret, qui est une jeune femme assez respectable, de famille moyenne, il estime que c'est son tour à lui de vivre le fameux rêve américain, et ben on va juste dire qu'il plonge dedans la tête la première. William, qui est le fils de George et Margaret, il grandit dans une petite banlieue près de Chicago qui porte le nom de Lincoln Wood. Et dès son jeune âge, il est considéré comme un enfant super sage, qui apporte aucun problème à ses parents, qui eux sont déjà assez occupés avec leurs problèmes financiers et relationnels qui commencent juste à s'augmenter et s'augmenter. C'est seulement lorsqu'il est âgé d'environ une dizaine d'années que les choses ont commencé à changer. Ses parents, qui ont toujours vécu dans la pauvreté, vont commencer de plus en plus à s'éloigner à cause des problèmes financiers. Parce que, on l'a déjà dit, des problèmes financiers dans un couple, ça peut être vraiment, vraiment destructeur. Et pour le cas de ce couple-là, cela était. Étant donné que William était tanné d'entendre ses parents se chicaner, il cherchait à passer le temps autrement et il va se mettre à s'éloigner de la maison et passer le plus clair de son temps à errer dans les rues de peur d'être à la maison lorsque les choses vont commencer à s'envenimer, ce qui malheureusement arrive sur une base assez quotidienne. Merci. Il était seul, il cherchait à passer le temps, comme je viens de le dire, et il va se décrocher un petit emploi d'emballeur dans un supermarché de son quartier alors qu'il a seulement 12 ans. Un jour, il va surprendre à avoir volé $1 à un client. Je me souviens pas trop de quelle manière. En fait, c'était dit dans un article que c'était via sa poche. L'autre, c'était via une transaction qui a pas donné le bon montant. En tout cas, dans tous les cas, il a volé $1 à un client et il a vraiment aimé ça. Il s'est dit que la petite adrénaline qu'il a ressenti après avoir fait son premier vol, ça lui donnait vraiment envie de recommencer et d'essayer de voir ce qu'il allait ressentir s'il volait un petit peu plus que ça. En quelques semaines, il va s'être ramassé avec un pas pire gros butin. Là. Il y avait des montants d'argent, des items de bar pour mélanger des cocktails, des livres, des caméras photos, des sous-vêtements et même un fusil qui se retrouvait dans sa planque de choses volées. Et ben, il rangeait tous les objets qu'il volait à ses collègues, ses amis, aux clients qui avaient l'occasion d'approcher d'assez près. Puis de ce que j'ai compris, il retournait pas nécessairement consulter les objets. Donc le fusil qu'il avait volé, il ne l'utilisait pas nécessairement. C'était vraiment juste pour avoir volé quelque chose et le posséder. Faut aussi souligner que chacun des vols qu'il a commis n'incluait aucun acte de violence. Il volait en secret, en douce, et pour une seule raison, l'adrénaline qu'il ressentait. Et la minute qu'il y avait quelqu'un d'impliqué ou qui était près de lui, il allait se dérober et ne pas commettre le vol. Donc il faisait vraiment ça loin des yeux et loin de tous. Malheureusement pour William, mais peu importe les motifs assez inoffensifs et le manque de violence, demeure que ben, passer du temps en cambriolant les gens, c'est illégal et c'est surtout très immoral. Alors qu'il est âgé de seulement 13 ans, il va être surpris par des policiers alors qu'il est en train de tenter d'entrer par effraction dans un appartement qui est situé au sous-sol sur une rue très peu passante. Après son arrestation, il va être examiné par un psychiatre qui va à ce moment-là affirmer aux parents de William que l'intérêt que leur fils porte pour le vol est une, ouvre la station, troublante habitude, fin de la station, et qui va alors recommander son inscription à une école semi-correctionnelle d'Indiana pour les jeunes garçons turbulents. Donc, en gros, c'est pas un centre carcéral en tant que tel, mais c'est vraiment une école avec grande rigidité et le tout est appuyé par le juge à la cour. Donc, il va être envoyé à cet endroit-là. Et comme on a pu le constater avec les différents scandales qui ont éclaté au Québec concernant notre direction de la protection de la jeunesse, ça peut être des fois contre-productif pour certains de se retrouver dans des centres ou des établissements qui regroupent les, entre guillemets, individus turbulents. Parce que dans le cas de William, c'est exactement ça qui se passe. Celui qui était un enfant plutôt solitaire, calme, malgré, oui, ses tendances kleptomanes, il va maintenant passer des mois et des mois à côtoyer des jeunes qui, eux, ont commis des crimes assez, assez graves. Tu sais, on parle d'agression armée, d'agression physique, agression sexuelle, tentative de meurtre, trafic de drogue. Ce qui fait en sorte que, ben, le crime fait de plus en plus de l'œil à William. Et c'est assez normal si on y pense parce que, ben, il baigne dans ce milieu. Il est à un âge tellement précaire et c'est tellement important pour lui d'être entouré des bonnes influences. C'est un peu normal pour William de pencher et de vouloir plaire à ses nouveaux amis. Donc, il est de nouveau arrêté un an après sa première interception et la cour va recommander à ce moment-là d'envoyer William dans un autre établissement scolaire correctionnel tout autant rigide, mais ça va rien changer. Le William s'est devenu un amoureux du crime et plus il passe du temps entouré par ceux qui partagent la même passion de lui, plus elle va s'exacerber. Le seul point positif que tire William de tout ça, c'est ses notes scolaires. Là, il a toujours été super doué à l'école et il a pas perdu son talent académique. Et ça va faire en sorte qu'il surpasse largement les résultats scolaires de la quasi-totalité de ses camarades. Il est tellement doué qu'il va même se qualifier à recevoir une bourse de l'Université de Chicago à l'âge prématuré de 16 ans. Et il va graduer un an plus tard, s'y inscrire dans l'espoir de suivre les cours et de devenir électricien. Mais à l'université, tout change. Vu qu'il a passé beaucoup, beaucoup d'années à fréquenter un centre scolaire carcéral assez carré, il est devenu musclé, il a grandi, il est devenu très, très, très apprécié par la gente féminine du même coup. Il est dit que les petites amies se sont succédées dans la vie de William Ahrens et il s'est également développé un réseau d'amis assez rapidement après son arrivée à l'université, considérant qu'il n'y a aucun mal à entretenir une conversation et à faire rire ses interlocuteurs. Il est super sociable. Il est intéressant parce que, justement, c'est quelqu'un d'assez intellectuel, qui a beaucoup de choses à dire et qui est très cultivé. Malgré le fait qu'il affirme et qu'il semble maintenant être un homme complètement comblé et libéré des centres correctionnels, il est dit que c'est exactement à ce moment de liberté que William Ahrens a décidé de retourner à ses vieux amours et, selon plusieurs, il aurait décidé d'augmenter d'intensité. Les vols, apparemment, ce n'était plus assez.
Le 10 décembre 1945, la police entre dans un appartement au 3941 North Pine Grove Avenue à Chicago. La scène de crime qu'ils découvrent est horrifiante. Le corps d'une femme gisant dans son bain, un couteau à pain enfoncé dans sa gorge. Dans son salon, un message troublant est écrit sur le mur en rouge à lèvres, message qui va propulser cette affaire sous les feux des médias. For heaven's sake, catch me before I kill more, I cannot control myself. Pour l'amour du ciel, attrapez-moi avant que je tue davantage, je ne peux pas me contrôler. Rapidement, les policiers réalisent que ce n'était pas la première fois que le tueur frappait. Joséphine Alice Loon, connue sous le nom de Josie, est née le 5 mars 1902 à Hayfield, au Minnesota, de ses parents Anna Hagen et John Oliver Loon. Joséphine, c'était la seule fille de 5 enfants. Elle avait 3 grands frères, Alfred, Elmer et Herman, et un petit frère, Aubert. À l'âge de 3 ans, en 1905, Joséphine vivait avec sa mère et ses frères, toujours à Hayfield, au Minnesota. Il y a peu d'informations qui sont disponibles sur le sujet, mais selon ce qu'on a pu trouver, les parents de Joséphine étaient probablement séparés ou divorcés à ce moment-là. Chose rare pour l'époque, oui, mais pas impossible. En 1910, Joséphine, sa mère et ses frères vivaient toujours à Hayfield et sa mère exerçait la profession de blanchisseuse, métier qui consistait principalement à laver, blanchir, repasser et parfois raccommoder le linge des particuliers ou des hôtels. En 1920, Joséphine, sa mère et ses frères s'installent dans la maison du révérend Open qui était récemment devenu veuf. Sa mère y travaillait comme gouvernante pour lui qui avait 2 enfants. Le 17 octobre 1922, Joséphine se marie avec John P. Walsh et le couple a une fille, Mary Jane Walsh, née en 1925. Par contre, par la suite, la trace de John Walsh se perd. La deuxième fille de Joséphine, Jacqueline Ann Miller, naît le 2 août 1927 dans le comté de Hennepin, au Minnesota. Bien que le père de Jacqueline soit mentionné comme étant Herbert Miller, il n'existe pas vraiment de preuves de mariage entre Joséphine et Herbert et on ignore ce qui est devenu de lui. Après 1930, Joséphine épouse Herbert P. Ross. Ensemble, le couple va partager 14 années jusqu'au décès de Herbert le 8 juillet 1944. Joséphine envisageait d'ouvrir un restaurant avec l'argent de l'assurance-vie de son mari, mais malheureusement, elle n'a jamais reçu cette somme-là. Le 5 juillet 1945, à l'âge de 43 ans, Joséphine Ross a été tragiquement assassinée dans l'appartement qu'elle partageait avec ses deux filles à Chicago. Ce jour-là, les policiers entrent dans l'appartement au 4106 Kenmore Avenue et y trouvent le corps de Joséphine. Il n'y a aucun signe d'infraction. Il semble que le tueur est entré dans l'appartement aux petites heures du matin par la porte arrière. La veine jugulaire de Joséphine avait été coupée de part à part et le tueur avait ensuite transporté son corps dans la salle de bain où il avait procédé au nettoyage du corps dans la baignoire. Les policiers ont trouvé la baignoire d'ailleurs encore remplie d'eau qui était maintenant rendue d'une couleur pourpre avec des serviettes ensanglantées qui flottaient à la surface. Le tueur a ensuite ramené Joséphine dans son lit et il a bandé ses blessures. Est-ce que c'est parce qu'il était désolé ou se sentait désolé pour ce qu'il avait fait? C'est quand même difficile à dire. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans un esprit dérangé. Il y a une jupe aussi qui avait été placée sur la tête de Joséphine. Il y a certaines sources qui disent que c'est une robe. Bref, il y a aussi un bas de nylon qui cachait ses blessures à sa gorge. Le tueur a ensuite passé près de 2 heures dans l'appartement après le meurtre, nettoyant les traces de ses empreintes digitales, ce qui suggère qu'il est au courant des manières médico-légales. On se rappelle, on est dans les années 1940. C'est quelque chose qui n'était pas nécessairement connu à l'époque. Bref, c'est un terme que les enquêteurs vont utiliser des années plus tard. L'appartement de Joséphine avait été complètement saccagé, mais il n'y avait rien qui avait été volé. La police a trouvé des cheveux noirs dans la main fermée de Joséphine, ce qui a démontré qu'elle s'était débattue avec son agresseur avant de mourir, et ça va corroborer des témoignages disant qu'un homme aux cheveux noirs aurait été aperçu fuyant la scène de crime. Comme j'ai dit plus tôt, pas beaucoup d'informations est disponible concernant la vie personnelle de Joséphine, mais supposément qu'à ce moment-là, elle avait un fiancé et ce dit fiancé-là avait un alibi, tout comme ses anciens petits amis et ex-maris, et la police n'avait pas d'autres suspects. Fâcheusement, le meurtre de Joséphine Ross n'a même pas fait la page première du journal, comme si, après cette fin brutale-là, la société avait décidé de l'oublier à tout fait. Elle est partie, emportée par la violence et par le silence, condamnée à l'oubli d'un monde qui n'avait plus de place pour elle, même dans ses pages. Joséphine est enterrée au cimetière d'Irving Park à Chicago, puis avec peu de pistes sur lesquelles la police pouvait s'appuyer ou voulait s'appuyer, il semblait que le meurtre de Joséphine Ross resterait non résolu, du moins jusqu'à 6 mois plus tard. La prochaine victime du Lipstick Killer est celle qui a été retrouvée avec le message écrit au rouge à lèvres qui va valoir le nom au fameux tueur. La jeune femme de 31 ans se nomme Frances Brown. Les policiers se sont rendus à son appartement après qu'une femme de ménage ait entendu une radio jouer fort et qui a remarqué que la porte de Frances était entrouverte. Elle a été découverte à moitié pendue dans la baignoire et en dehors de la baignoire. Les policiers ont trouvé, encore une fois, des serviettes tachées de sang dans la baignoire et à proximité. Pour cacher les blessures de sa victime, le tueur avait cette fois-ci mis un pyjama sur sa tête, mais quand les policiers l'ont relevé, ils ont vu un couteau à pain. Certaines sources disent que c'est un couteau de boucher, bref, un couteau fermement planté dans son cou. Frances Brown avait également été tirée par balle, une fois au bras et une fois sur le côté de la tête. Le tueur avait pris son temps, une fois de plus, pour nettoyer la scène de crime, essuyant soigneusement le corps avec de l'eau et du savon. Il avait également utilisé du ruban adhésif pour couvrir ses blessures. Une fois de plus, c'est difficile de comprendre un esprit tordu. Est-ce que peut-être il pensait qu'il était en train de la réparer? Ou encore, est-ce que c'est des personnalités différentes qui habitaient le cerveau d'un homme complètement fou? Ce qui rend stupéfait la police, c'est comment le tueur est entré dans l'appartement de Frances Brown. En fait, il avait effectué une cascade assez dangereuse en sautant d'une échelle de secours en hauteur sur le rebord étroit de la fenêtre de la chambre de Frances Brown. Le tueur aurait très bien pu tomber et se tuer. Les policiers savaient à ce moment-là qu'ils recherchaient quelqu'un qui n'était pas un criminel ordinaire. Non seulement ça, mais le message étrange qui fait froid dans le dos et sûrement à n'importe qui écoute cet épisode, est-ce que ce maniaque voulait vraiment être arrêté? Il a été méticuleux dans le nettoyage de l'appartement. Selon moi, c'était donc contradictoire d'écrire qu'il voulait être attrapé. Peut-être que tout ça n'était qu'un jeu pour lui. Bref, malgré ça, malgré ses efforts, il a laissé un indice derrière lui. Sur la poignée de porte qu'il a touchée avec sa main ensanglantée, il a laissé une empreinte digitale. Un témoin oculaire potentiel a peut-être même observé la fuite du tueur, tandis qu'un autre témoin, George Weinberg, a entendu des coups de feu vers 4h du matin. John Derrick, qui était le réceptionniste de nuit dans le hall de l'immeuble, a lui aussi remarqué un homme nerveux d'environ 35 à 40 ans et pesant autour de 63 kilos. L'homme est sorti de l'ascenseur, a cherché la sortie menant à la rue, puis s'est enfui assez rapidement. Les journaux locaux se sont immédiatement emparés du meurtre de Frances Brown, publiant en première page des photos du message écrit au rouge à lèvres et surnommant le coupable le tueur au rouge à lèvres. Un criminel sans nom, sans visage, qui semait la terreur dans le quartier huppé de Northside de Chicago. Dans les semaines suivantes, la ville vivait dans la peur, attendant avec angoisse la découverte d'une nouvelle scène de crime macabre. Mais l'attente n'a pas été longue. Le 7 janvier 1946, vers 7h30 du matin, James Dignan découvre que sa fille de 6 ans, Suzanne, a disparu de sa chambre, située dans un appartement au 5943 North Kenmore Avenue. Suzanne Dignan vivait avec ses parents James et Ellen et sa sœur de 10 ans Elizabeth dans un appartement loué au premier étage d'un grand immeuble. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer la terreur que cet enlèvement et ce meurtre-là a fait connaître dans l'esprit des enfants de l'époque et même des parents. Les États-Unis venaient de vaincre le dernier de leurs ennemis quelques mois plus tôt dans une guerre mondiale. Et bien que cette guerre mondiale-là ait été le théâtre de nombreux événements terribles pour la plupart des Américains, ces événements étaient encore lointains. C'est peu dire que c'était une époque d'unité et de détermination nationale et du moins sur le front intérieur, un sentiment d'innocence. Le meurtre de cette petite fille-là a été un choc et a brisé ce sentiment d'innocence. La police a aussitôt commencé l'enquête et bien vite, elle a découvert que l'agresseur avait utilisé une échelle pour atteindre la fenêtre de sa chambre. Dans la chambre, les enquêteurs trouvent une lettre de rançon écrite sur un vieux bout de papier qui est taché d'huile. Comme dans le message laissé sur le mur de Francis Brown, on n'en a pas parlé plus tôt, je vous le précise maintenant, les lettres majuscules de la demande de rançon sont disposées de manière irrégulière. Un autre élément qui allait devenir important était la présence de fautes d'orthographe. On va mettre une photo sur notre page Instagram de la lettre de rançon en question. Ça va être un petit peu plus facile, je pense, surtout pour les personnes visuelles, de la regarder. La note lisait « Get $20,000 ready, wait for word. Do not notify FBI or police. Bills in fives and tens, burn this for her safety. »
T'aurais pu le lire? Non, c'est pas vrai. Moi, je pense que tu sais, ça ressemble à le voir visuellement. Je trouve que ça ressemble à appel à tous les milléniaux ici. Là. Ça ressemble à quand t'essaies de parler en con. Tu sais, moi, je vois juste le mime de Bob l'éponge avec comme les mains dans le dos. Tu sais, des fois, on fait ça pour comme imiter quelqu'un qu'on aime moyen. Là, on le fait en une lettre majuscule, une lettre minuscule, majuscule, minuscule, mais pour comme imiter quelqu'un qu'on aime pas quand il parle comme un cave. Là. Excusez, on fait tout ça. On va essayer de les vraies affaires. Fait que c'est ça, on dirait ça.
Non, mais c'est vrai, hein, on va dire les vraies affaires, comme tu dis. Je pensais au début qu'il écrivait comme ça, puis après j'ai regardé, puis il n'y a aucun sens. Je me disais, ça va être facile à dire une lettre majuscule, une lettre minuscule, mais non, il a juste vraiment écrit n'importe quoi, tout croche. En plus, il a fait tellement de fautes d'orthographe. De retour au programme principal, il y a un homme qui a appelé plusieurs fois la résidence des Dignan pour exiger la rançon, mais a raccroché avant qu'une véritable conversation s'engage. La police a interrogé les voisins de la famille Dignan, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. Agissant sur la base d'un appel anonyme, la police a découvert la tête de la petite dans un égout à un pâté de maison de la résidence des Dignan. Sa jambe droite dans un bassin collecteur, son torse dans un autre égout pluvial et sa jambe gauche dans un autre égout. Ses bras ont été retrouvés un mois plus tard dans un autre égout après que ses autres restes aient été enterrés. L'enterrement a eu lieu et un mois plus tard, on a découvert le reste de la petite. Les recherches ont permis de trouver un bac de lavage dans le sous-sol d'un immeuble voisin, non loin de l'endroit où la tête de Suzanne avait été retrouvée. Cet endroit-là, où elle semblait avoir été démembrée, bien qu'il ait été déterminé plus tard qu'elle était déjà morte lorsqu'elle y était amenée, a été surnommée par la presse la salle du crime. La police a interrogé des centaines de personnes, soumis environ 170 d'entre elles à un test polygraphique et a affirmé à plusieurs reprises avoir capturé le tueur, même si tout au final ont été libérés, laissant les policiers assez gênés. Le coroner a fixé l'heure du décès entre 00h30 et 1h du matin et a déclaré qu'un couteau très aiguisé avait été utilisé pour démembrer le corps de manière experte, ayant fait un travail très propre. Un expert du coroner a déclaré que le meurtrier était soit un homme qui travaillait dans une profession qui exigeait l'étude de l'anatomie, soit quelqu'un avec une formation en dissection. Même le médecin moyen, selon ses dires, ne pouvait pas être aussi habile et donc il devait s'agir d'un découpeur de viande. Leur fierté évidemment froissée et désespérée de résoudre les meurtres avant qu'une quatrième victime ne soit tuée, les enquêteurs ont tourné leur attention vers Hector Verberg, un concierge âgé de 65 ans. Il travaillait dans l'immeuble où vivait la famille Dignan et l'évier où la victime avait été démembrée se trouvait dans une zone qu'il fréquentait assez régulièrement. En plus de ça, l'état sale de la lettre de rançon suggérait, selon la police, qu'elle avait été écrite par une main souillée et, selon eux, les concierges ont souvent les mains sales. Malgré le fait que le profil de Verberg ne correspondait pas à celui que la police avait établi par eux-mêmes, indiquant que le tueur avait probablement des connaissances chirurgicales ou au moins des compétences de boucher, les autorités ont déclaré aux médias qu'il tenait le coupable. Sous interrogatoire, Hector Verberg a été battu pendant 48 heures. Le concierge de 65 ans en est sorti grièvement blessé, notamment avec une épaule disloquée. Malgré toute cette violence, il n'a jamais confessé et son avocat syndical a obtenu sa libération via habeas corpus. Le terme habeas corpus vient du latin qui signifie littéralement « que tu es le corps ». C'est un principe juridique qui protège les individus contre les détentions arbitraires et abusives. En gros, le habeas corpus permet à une personne détenue de demander à être présentée devant un juge pour vérifier la légalité de sa détention. Si la détention est jugée illégale ou sans fondement, le juge peut ordonner la libération de cette dite personne. En pratique, ça garantit que les autorités ne peuvent pas emprisonner quelqu'un sans justification. C'est un droit fondamental dans plusieurs systèmes juridiques, notamment dans les pays qui suivent la tradition du common law, comme le Canada et les États-Unis. Bref, plus tard, Hector Verberg a dit « Ils m'ont suspendu. Ils m'ont bandé les yeux. Je ne peux plus lever les bras. Ils m'ont fait trop mal. Ils m'ont mis des menottes pendant des heures. Ils m'ont jeté dans la cellule et m'ont bandé les yeux. Ils m'ont menotté les mains derrière le dos et m'ont suspendu jusqu'à ce que mes orteils touchent à peine le sol. Je n'ai pas mangé, j'ai fini à l'hôpital, j'étais si malade. Encore un peu et j'aurais avoué n'importe quoi. » En effet, il a passé pas moins de 10 jours à l'hôpital. Il a ensuite été déterminé que Hector Verberg n'écrivait pas suffisamment bien en anglais pour avoir rédigé la lettre de rançon, même avec son style rudimentaire. Il a poursuivi le service de police de Chicago et a reçu 20 000 $ américains, ce qui équivaut aujourd'hui à 285 000 $ américains en 2024. Parmi cette somme-là, 5 000 $ américains a été versé à son épouse, à qui la police avait tenté de mettre la pression pour qu'elle accuse son mari de meurtre, même si elle n'avait aucune preuve et qu'il n'avait absolument rien fait. Une autre fausse piste notable concerne Sidney Sherman, un marine récemment démobilisé ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. La police a trouvé des cheveux blonds derrière l'immeuble des Degnan et à proximité un fil que les enquêteurs suspectaient d'avoir pu être utilisé comme garrot pour étrangler Suzanne Degnan. Non loin de là, ils ont découvert un mouchoir portant une marque de blanchisserie S. Sherman. La police espérait que le tueur avait commis une erreur fatale en laissant ce mouchoir-là sur les lieux. En fouillant les archives militaires, ils ont découvert qu'un Sidney Sherman habitait près de là au YMCA au Hyde Park. La police a voulu interroger Sherman, mais a constaté qu'il avait quitté le YMCA assez rapidement, sans dire bye à personne, et avait même abandonné son emploi sans toucher son dernier salaire. Évidemment, c'est des actions qui sont assez suspectes. Il y a une chasse à l'homme nationale qui a été lancée et Sherman a été retrouvé 4 jours plus tard à Toledo, en Ohio. Sous interrogatoire, il a expliqué qu'il s'était enfui avec sa petite amie et il avait catégoriquement nié que le mouchoir lui appartenait. Il a passé un test polygraphique qu'il a réussi et il a été disculpé. On tient à le rappeler, les tests polygraphiques ne sont pas admissibles en cours. C'est quelque chose que encore la police utilise, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut se fier.
Puis juste pour donner une petite mise en perspective, pensez-y, vous, quand les gens vous regardent et que vous devez vous expliquer, je sais pas pour vous, moi j'ai l'air de mentir, j'ai l'air de pas... Je me mets stressée quand les gens me regardent. Imaginez être dans un interrogatoire et devoir répondre à des questions, c'est clair que je passerai pas un test de polygraphe. Je suis beaucoup trop stressée dans la vie pour passer un test de polygraphe. Donc je pense que c'est justement pour des personnes comme moi qui auraient le cœur qui battrait à toute allure dans cette situation, même si elles n'auraient rien commis de mal, qu'il faut prendre ça en considération. Fait que je comprends que le test de polygraphe, ça peut valoir quelque chose, mais je vais juste venir à la défense de pourquoi on le prend pas tout le temps en considération. C'est parce que des fois, ça peut être faussé par des gens stressés comme moi.
Puis il y a eu beaucoup de meurtriers ou de gens coupables de plein de crimes qui ont passé le test polygraphique, puis ils étaient coupables. Et c'est exactement pour ça qu'on l'admet pas en cours. Mais là, on est dans les années 40. Bref, on revient encore une fois au programme principal. Le véritable propriétaire du mouchoir a finalement été retrouvé. Non, ce n'était pas Monsieur Sherman. Il appartenait à Seymour Sherman, qui est un aviateur de New York qui se trouvait hors du pays au moment du meurtre de Susan Degnan. Imaginez son incompréhension quand il s'est fait appeler par la police pour se faire dire que son mouchoir avait été retrouvé sur une scène de crime. Il comprenait pas trop comment son mouchoir avait pu se retrouver à Chicago. Sa présence a seulement été jugée comme une coïncidence. Comme j'ai dit tantôt, après la disparition de Susan Degnan, la résidence de la famille a reçu des appels téléphoniques demandant une rançon. Theodore Campbell, qui était un jeune du coin, a déclaré plus tard qu'un autre adolescent du coin, Vincent Costello, avait tué Susan Degnan. Vincent Costello, qui vivait à quelques pâtés de maison de la famille Degnan, avait été condamné pour vol à main armée à l'âge de 16 ans et envoyé dans une maison de redressement. Campbell a déclaré que Costello avait admis avoir enlevé et tué Susan Degnan et lui avait demandé de passer les appels téléphoniques au Degnan. Costello a été arrêté, mais, encore une fois, les tests polygraphiques ont indiqué que ni Campbell ni Costello n'avaient connaissance du meurtre. Si les policiers étaient déjà gênés par leur enquête bâclée et leur comportement, ben, les pistes s'épuisaient et la pression continuait de monter. Les médias et la population accusaient depuis bien longtemps déjà la police de faire un travail minable. L'enquête s'est donc portée sur Richard Thomas. Thomas, c'était un infirmier à Chicago et se présentait souvent comme un chirurgien. Le démembrement de Susan Degnan était chirurgical et précis, ce qui faisait de Thomas un suspect viable. Il avait également été emprisonné pour agression sexuelle sur l'un de ses enfants et avait déjà tenté d'extorquer de l'argent à une famille en menaçant de l'enlever par une note similaire que celle que les Degnan avaient reçue. Richard Thomas a même avoué le meurtre de Susan Degnan lors de son interrogatoire. Plutôt que de clore l'affaire, ces aveux-là n'ont fait qu'interrompre l'enquête pendant un court moment. Malgré les preuves circonstancielles, Thomas semblait se tromper sur beaucoup de détails de l'affaire et des soupçons sur le fait qu'il aurait avoué le meurtre pour éviter la prison en Arizona ont commencé à émerger. Pendant ce temps-là, l'arrestation d'un cambrioleur de 17 ans a détourné l'attention de Thomas juste à temps pour qu'il se rétracte.
Comme co-animatrice vient de si bien l'expliquer, ben, les policiers y sentaient que la soupe se réchauffait. Il y avait de plus en plus de pression et ben, tout ce qu'ils voulaient, c'était épingler le meurtrier de Susan Degnan. Il était de plus en plus désespéré, on va se dire les vraies affaires, et lorsqu'ils ont tombé sur William Ahrens, qui était dans une position assez compromettante le 26 juin 1946, ils vont tout de suite être convaincus qu'ils viennent de mettre la main sur leur homme. Ce soir-là, c'est un William de 17 ans qui se prépare à passer une soirée romantique en compagnie de sa petite amie du moment, et le seul élément manquant était l'argent. Malgré le fait que William n'use toujours pas de violence, il reste que c'est un kleptomane et bon, dans l'intention d'aller retirer l'importante somme de 1 000 $ au bureau de poste, il va décider que c'est peut-être une bonne idée de s'armer et il glisse dans sa poche un revolver. On est aux États-Unis où on ne l'est pas. William, il est complètement désemparé lorsqu'il réalise que son plan est à l'eau parce qu'il s'est pris trop tard et le bureau de poste est fermé. Il peut donc pas payer sa soirée et il se laisse pas abattre si rapidement que ça. Dans l'intention d'aller dérober quelques centaines de dollars dans l'un des appartements des maisons du voisinage, il va se promener et il va trouver l'appartement que lui juge comme l'appartement parfait parce que la propriétaire, elle a même laissé la porte ouverte. Propriétaire qui, elle, réside dans le même quartier que la défunte Susan Degnan. Lorsque les policiers voient un William Ahrens en train d'essayer de s'infiltrer dans un appartement qui visiblement n'est pas le sien, ils vont pas hésiter une seule seconde et vont le prendre en filature en criant « Police! Freeze! » Pour une raison qui va demeurer assez floue, William Ahrens va s'arrêter, il va braquer son arme vers les policiers. Les versions et de William et des policiers vont se contredire sur la suite des événements, mais le fait est que des coups de feu sont tirés et les policiers affirment que c'est William qui a tiré le premier, alors que William affirme que il a tiré en guise de légitime défense parce qu'il s'était fait viser le premier. Le fait est que les deux parties se renvoient la balle sans cesse dans tous les sens du terme et William va éventuellement réussir à se jeter de tout son long sur l'un des policiers qui était en train de faire feu à ce moment-là et difficilement il va parvenir à maîtriser le policier et du même coup il va empêcher son partenaire de continuer à tirer parce que le policier s'il continue de tirer en direction de William il risque du même coup d'atteindre son collègue. Et bien évidemment, la commotion attire beaucoup, beaucoup de regards du voisinage, de passants. Et il va attirer le regard d'un policier qui est habillé en civil et ça va tout changer. Là, je vais juste vous décrire la scène pour que vous l'imaginiez convenablement. Un jeune garçon de 17 ans qui est en train de maîtriser un policier au sol. Les deux lui hurlent à plein poumon d'arrêter. Le partenaire du policier à côté crie de plus belle, aussi fort. Il demande à William de s'immobiliser. Il répète, mais celui-ci préfère immobiliser le policier qui tente de maîtriser. Et au loin, il y a un homme en maillot de bain qui s'avance vers les hommes avec détermination. Il est encore parsemé de petits bouts de sable incrustés dans sa peau. Là. Il revient de la plage, c'est visible, et il empoigne un géant, pot de fleurs, de décoration urbaine. Tu sais, les géants, pots de couleurs assez pâles. Oui, ceux-là. Là. Il va le fracasser sur la tête du jeune de 17 ans. Oui, un policier en maillot de bain a littéralement cassé un énorme pot de fleurs sur la tête d'un adolescent qui est en train de maîtriser un autre policier. Je veux dire, c'est une scène de film, littéralement. Et tragiquement, la suite des événements l'est tout autant. Évidemment, les policiers vont procéder à l'arrestation de William Ahrens et après les faits, ils vont le transporter dans l'aile médicale du Cook County Jail Center où il va avoir des points de suture pour pouvoir cesser le saignement causé par le fracas du pot de fleurs. Je veux dire, comme c'était un gros pot de fleurs, mesdames et messieurs. Puis, sans prendre le temps d'obtenir un mandat, les policiers vont prendre la décision de chercher de fond en comble la chambre universitaire de William, sa chambre familiale chez ses parents et son casier personnel. Et justement, dans le casier, ils vont trouver plusieurs objets qui avaient été volés et ils vont, eux, de leur côté, voler les empreintes digitales qu'ils vont trouver pour l'envoyer en analyse. Résultat, la police affirme haut et fort, et surtout à qui veut bien l'entendre, dont les médias qui sont avares de réponses, qu'il s'agit des mêmes empreintes qui ont été trouvées sur l'une des notes de rançon dans l'affaire Susan Degnan, et on doute encore de l'authenticité de ce fait des décennies plus tard. À ce moment-là, les autorités sont convaincues d'avoir mis la main au collet du fameux Lipstick Killer, le tueur rouge à lèvres. Eh bien, ils sont prêts à tout. Pour le prouver à vraiment tout. Les policiers vont ordonner l'isolement complet de la chambre d'hôpital dans laquelle William se remettait très, très tranquillement de ses blessures, qui étaient assez intenses, soit-il dit en passant, là, comme je veux le rappeler, il s'est fait fracasser le crâne par un gros pot de fleurs. Puis tu sais, les pots de fleurs urbains, là, comme pas juste un pot de fleurs que t'as chez toi, là, comme ceux qui décorent la ville dans lesquels tu fais des passages piétons quand Valérie Plante décide que la ville devient une piétonisation. Merci, on comprend l'image.
Juste dire, même un petit pot de fleurs fracassé sur ton crâne, même un petit verre d'eau fracassé sur ton crâne en vitre, aïe aïe, c'est des bonnes blessures qu'il y a eu cet enfant-là.
Merci de le souligner, c'est un enfant. Donc, de retour à l'histoire, là, dans la chambre, ils vont priver William de nourriture, de sommeil et de tout contact avec, que ce soit sa famille, son avocat, ses amis, en fait, tout contact extérieur, outre les policiers, et le tout dans le but de l'interroger sans cesse et surtout, sans scrupule et sans pitié. Après avoir attaché le jeune de 17 ans à son lit d'hôpital, on le répète, c'est un jeune de 17 ans dont on parle, ils vont demander à une infirmière de verser de l'éther diélytique sur les parties génitales de William, ce qu'elle va faire. De l'éther diélytique, c'est un produit qui a été longtemps utilisé en médecine pour dissoudre les résidus de pansements adhésifs. Alors qu'il est toujours attaché, un policier va ruer le ventre de William de coups de poing tout en répétant en boucle plusieurs détails du meurtre de Susan Degnan dans l'espoir de le faire flancher, de le faire passer aux aveux, ce qui vient jamais. Petit segment éditorial ici, je veux dire, c'est littéralement de la torture de frapper quelqu'un puis de lui imposer des paroles ou de lui faire vivre des scènes qu'il n'a probablement jamais vécues ou qu'il n'allègue n'avoir jamais vécues. C'est comme si le policier essayait d'insérer des mots dans son subconscient de vulnérabilité blessée. Bref, malgré la torture, William ne va jamais avouer les meurtres. Il va toujours continuer de clamer son innocence et malgré les coups, les pertes de conscience répétitives, les drogues administrées autant pour la douleur que pour affaiblir les capacités cognitives de William, là, celui-ci va jamais, jamais, jamais avouer aucun des meurtres pour lesquels il est questionné et accusé. Après 5 jours de pure torture, on va ordonner à un médecin de procéder à une ponction lombaire à froid. Une ponction lombaire, ça consiste à injecter une vingtaine de millimètres de sang dans l'espace épidural lombaire du patient. Et ça, là, ça se fait habituellement sous anesthésie locale. Je veux dire, juste à vous dire les mots, j'ai de la misère à ne pas frissonner. Fait qu'imaginez le vivre. Et je veux juste dire que, ben, ils ont fait ça sans demander le consentement de ses parents. On le rappelle, on le dit. William a 17 ans. Je veux dire, à 17 ans, t'es même pas supposé pouvoir te faire tatouer légalement sans le consentement de tes parents. T'es supposé, tu peux pas te faire questionner comme ça et recevoir une ponction lombaire à froid. On va se dire les vraies affaires. Justement, toujours sans demander le consentement des parents, on va ordonner l'injection de pentanol sodique, populairement connu sous le nom de sérum de vérité, pour obtenir une confession. Et à la base, on va plutôt obtenir le résultat opposé. William va scander son innocence et entrer dans un état de délirium total. Par contre, après quelques minutes de dérive totale de la part de l'adolescent, il va se mettre à prononcer des mots assez alléchants pour les policiers. « Je crois que je sais qui est le meurtrier. » Toujours dans un état de délire avancé, William va affirmer qu'un dénommé George est potentiellement l'homme derrière la série de meurtres sordides et, considérant que le middle name, donc le nom du milieu de William, c'est George, ils vont être convaincus qu'il s'agit de l'alter ego de William et les policiers vont crier encore une fois haut et fort qu'ils ont trouvé leur homme. Et pour la part des médias qui étaient tout autant friands de trouver l'identité du lipstick killer, ils vont sauter sur l'occasion pour annoncer à tous que William Herons, c'est le meurtrier et qu'il souffre d'un problème de personnalité multiple à la, ouvre la station, Jekyll et Hyde, fin de la station. Pour William Herons, qui a été arrêté via un usage de la force peu commun, et il a été inculpé en raison de preuves dérobées sans mandat, il a été torturé pendant des jours, on lui a administré un sérum de vérité sans consentement, et malgré tout ça, son cauchemar ne fait que commencer. Il a même pas encore eu le temps de lever le petit doigt que l'opinion publique est déjà contre lui. Il a même pas eu le droit de penser à sa défense avant de déjà être déclaré coupable aux yeux de tous. Les médias et les autorités étaient-ils si aveuglés par la quête de vérité qu'ils en ont oublié de la prioriser? Bien que des policiers aient affirmé avoir trouvé une correspondance entre les empreintes trouvées dans le casier de William et celles trouvées sur la scène du crime dont on l'accuse, demeure que cette preuve-là soit assez précaire. À l'époque, le FBI stipulait qu'une empreinte devait avoir au moins 12 points de comparaison pour être considérée comme une preuve. On se rappelle, on est en 1940, on est bien avant l'époque des empreintes disponibles dans une banque de données dont la clarté est indiscutable. Les empreintes de William et celles retrouvées sur la scène avaient seulement 9 points de ressemblance. Techniquement, la preuve n'est donc même pas admissible en cours selon le FBI. Je veux juste ajouter aussi que techniquement, il n'y a aucune des preuves recueillies lors des fouilles des policiers des qui ont fait dans les chambres, les casiers de William qui auraient dû être admissibles en cours non plus parce qu'elles ont été trouvées alors que les policiers effectuaient les recherches sans mandat. Il faut connaître ses droits, les amis. Si un policier n'a pas de mandat, il n'a pas le droit de chercher et tout ce qu'il trouve ne peut être admissible en cours. Point bonus pour la défense de William, les empreintes qui ont été trouvées sur les notes de rançon sont apparues après l'arrestation de William. Par contre, on prend pas cet aspect en considération. Il y a plusieurs agents et individus qui étaient impliqués dans l'affaire qui ont crié haut et fort qu'ils n'avaient jamais pris connaissance des empreintes sur les notes de rançon avant le jour où William s'est fait passer les menottes, mais ça non plus, ça n'a pas été pris en considération. Il y a plusieurs experts qui ont affirmé et qui affirment encore à ce jour que l'écriture de William n'est en rien identique ou ressemblante à celle sur les fameuses notes de rançon. On le dit, William, c'est un élève doué, même surdoué, qui avait une calligraphie assez soignée, donc ça ne se comparait pas du tout à l'espèce d'écriture qu'on a pris 2-3 minutes à vous décrire tout à l'heure. Malgré tout, on accuse formellement William d'agression avec intention de tuer, de vol qualifié, de 23 chefs de cambriolage et de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. L'avocat de William ne lui ment pas, il est dans de beaux draps, l'opinion publique est déjà contre lui, les policiers sont convaincus qu'il est coupable et il a de fortes chances de se ramasser sur la chaise électrique. Continuerait-il de clamer son innocence et plaiderait-il non coupable? Donc en gros, je vous résume ça, vous êtes accusé d'un meurtre dont vous êtes persuadé de ne pas être coupable, vous clamez votre innocence et à ce moment-là, on vous dit ben personne va te croire, donc si tu continues de clamer ton innocence et d'avoir ton droit d'être présumé innocent et de le clamer haut et fort, tu vas risquer d'être électrocuté. On rappelle que William, il a 17 ans, lorsqu'il se fait présenter le choix de sa vie, qui est soit de continuer à défendre son innocence et de risquer d'en perdre sa vie, ou d'accepter un accord de plaidoyer, plaider coupable et éviter la peine de mort. Est-ce que William Ahrens a déjà eu un choix? Ouvre la station. Le truc, c'est que lorsque tu es mort, tu ne peux plus clarifier les choses. Quand tu es en vie, tu as encore la chance de prouver que tu es innocent. C'était beaucoup mieux pour moi de continuer à vivre. Fin de la station. Ironiquement, William Ahrens y a passé cet accord dans le but de pouvoir vivre sa vie qu'il a ensuite vécu derrière les barreaux après avoir obtenu 3 peines de prison à vie consécutives avant de décéder à l'âge de 83 ans à la suite de complications liées à son diabète. Il était encore incarcéré lorsqu'il a rendu l'âme et il était même devenu le plus vieux détenu de Chicago. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence.
L'affaire du Lipstick Killer soulève des questions sur la justice et la vérité. Si William Ahrens est innocent, ça signifie qu'un homme, arrêté lorsqu'il était un jeune adolescent de 17 ans, a été condamné à tort et a passé sa vie derrière les barreaux. Non seulement il avait 17 ans, mais il a été battu et torturé par la police à 17 ans. Même la fille de Francis Brown, Janet Healy, a publiquement remis en question la culpabilité d'Ahrens en 1999, alors que des tests ADN ont révélé qu'il était peut-être innocent. Certains membres de la famille ont soutenu que l'affaire avait été mal résolue et qu'Ahrens, en tant que jeune homme vulnérable à l'époque, avait peut-être été poussé sous pression malgré son innocence. Mais au-delà de ça, ça implique aussi et surtout que 3 victimes n'ont jamais eu la justice qu'elles auraient dû recevoir. Les victimes n'ont pas seulement été privées de leur vie, mais leurs proches ont dû endurer des années de douleur et d'incertitude dans l'attente d'une réponse qui n'est jamais venue. La question se pose, est-ce que cette réponse-là va venir un jour?
Et c'est ainsi que se conclut l'épisode spécial Zodiac pour le signe du Scorpion. Un grand merci d'avoir été avec nous durant cet épisode. Sincèrement, si vous êtes encore avec nous alors que je prononce ces mots, prenons 2 secondes pour aller nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu consommes notre contenu. Ça nous aide tellement, tu n'as même pas idée à quel point. Ou tout simplement, viens nous envoyer un petit message dans nos DM sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Et puisque la tradition vaut toujours la peine d'être célébrée et d'être respectée, continuons la tradition, de quoi tu me parles la prochaine fois?
La prochaine fois, on vous propose un épisode qui va pas être gore, qui va pas être sanglant, mais qui va assurément provoquer des réflexions intenses et remettre en question certaines notions éthiques. Je vous conseille vraiment de vous préparer parce que c'est un épisode qui va être chargé en émotions. Comme j'ai dit, c'est pas que ça va être sanglant ou gore, c'est juste que ça va venir toucher à des sujets extrêmement sensibles. Et j'ai hâte de vous en parler si je pose ça de cette façon-là. Bref.
On se retrouve très bientôt à
Crème et Cocktail.
Cheers, guys!
Chin-chin!